Sur ce sentiment inconnu, dont l'ennui, la douceur m'obsède, j'hésite à apposer le nom,
désespoir.
Le beau nom grave de tristesse.
Vous vous rendez compte de votre état ?
La mélancolie.
Vous avez envie de guérir ou vous n'avez pas envie ?
Remède.
Ce que je veux avant tout, c'est que les gens se soignent.
À la mélancolie. Eva Bester.
Appelez-moi docteur.
Bienvenue dans cette émission préparée par Corinne Valente et Laure Grand-Besançon, réalisée par Eliane Girard et mise en musique par Muriel Pérez. Aujourd'hui à la technique, c'est Tristan Gratalon. En hommage à la sensibilité musicale concernant la langue de notre invité, la gourmandise de ce matin réjouira en étant prononcée. Il s'agit des pseudonymes imaginés par Henri Bayle, alias Stendhal. Paul Léoto en a décompté 171, d'autres vont jusqu'à 350. Je ne connais pas le vrai nombre, mais certaines trouvailles sont si drôlatiques qu'elles semblent une parodie d'être humain. Je vous dis mes favoris. Anastase de Serpierre, Arnolphe II, William Crocodile, Don Flegme, Baron Chagrin, Jules Pardessus, Polybe Love Puff et P.F. Piouf. Du rejet qu'elle connaît dès la plus tendre enfance, notre apothicaire de l'âme a fait une force. Elle naît sur l'île de Niodior, au sud-ouest du Sénégal, des amours d'un couple illégitime qui l'abandonne vite à ses grands-parents. Dans la douleur sommeille parfois la liberté, notre invitée s'y éveille et écrit dès l'âge de 13 ans. Résultat, ses oncles l'accusent d'avoir recopié un livre, elle se défend en expliquant qu'elle entend des histoires dans sa tête, on l'envoie chez le marabout pour un désenvoûtement. Plus tard, elle quitte son village pour étudier dans d'autres villes qu'elle vient de m'écrire sur ma feuille. Il y a Foundiougne, Mbour et puis Dakar. Et j'en ai oublié quelques-unes, évidemment, je vais me tromper car elle a une vie beaucoup trop romanesque. Plus tard encore, elle rencontre un Français qui l'emmène vivre en Alsace. Elle continue ses études de lettres à Strasbourg, ville où elle découvre le racisme. Les emplois auxquels ses études lui donnent accès lui sont systématiquement refusés et elle connaît un autre rejet intime, celui de sa belle-famille, qui mènera à un divorce. Notre guerrière ne fléchit pas, son lyrisme et sa drôlerie sont intacts, l'adversité, au lieu de la diminuer, semble accroître ses forces. Elle fait des ménages pendant 6 ans avec son DEA en poche, finit par enseigner et publie des nouvelles, puis un roman, Le ventre de l'Atlantique, très remarqué dans le milieu littéraire. L'impétueuse affranchie avance, ne cédant jamais aux sirènes de la victimisation. Elle ne s'intéresse qu'à une seule question, comment vivre malgré tout? On trouve un début de réponse dans son dernier roman, Les Veilleurs de Saint-Gomard, paru en août dernier chez Albin Michel. Gageons d'avoir d'autres indices au cours de l'émission. Fatou Diom, bonjour et bienvenue.
Bonjour Eva, bonjour.
Première question, quel rapport entretenez-vous avec la mélancolie ?
Je la combats. Donc je considère que c'est une ennemie et puis elle peut faire litière de nos rêves parce qu'on peut s'engluer dedans. Donc c'est une motivation de lui tenir tête. C'est comme la nuit, elle ne mourra pas, c'est moi qui l'aurai.
Elle vous suit depuis toujours, Fatou Diom, cette mélancolie, ou elle vous laisse tranquille parfois?
Je pense qu'elle et moi, c'est comme au football, elle me dribble, je la dribble. Et depuis que je suis toute petite, oui, parfois j'ai eu des vraies raisons de tristesse. Mais j'accepte aussi de pleurer un bon coup. C'est aussi un remède que je conseille aux gens. Mettez la musique la plus triste que vous ayez. Mettez un litre d'eau devant vous avec un rouleau de sopalin. Admettez votre fragilité humaine. Lâchez-vous, pleurez un bon coup. Et le lendemain, le ciel devient beaucoup plus bleu.
Vous dites, Fatou Diom, que rester optimiste est un joli pied de nez à ceux qui veulent vous maltraiter ou vous déprimer. Garder le sourire et la tête haute est un geste subversif qui désespère l'ennemi.
Oui, tout à fait. Parce que garder le sourire, c'est s'accorder le droit au bonheur. C'est en tout cas, c'est tenir tête, c'est faire face. Et c'est rester debout. Parce que on a souvent des raisons de nous écrouler. Mais il n'y a rien de plus désespérant pour quelqu'un qui voudrait vous rendre malheureux que de lui montrer un sourire désespérément tenace.
Il y a une phrase dans une interview que j'ai beaucoup aimée, Fatou Diom. Vous dites « Je ne vais jamais sur les terres de la déprime, c'est un engagement avec moi-même. Quand je suffoque à l'idée de monter dans un train, je me dis « Reste chez toi Fatou, fais-toi une choucroute ou un thieboudienne et dors pendant une semaine. »
Oui, tout à fait. Mange bien, mange jusqu'à t'épuiser, puis couche-toi, dors. Et après, on se réconcilie avec soi-même parce qu'on rêve, parce qu'on s'accorde le repos. C'est aussi la lutte contre la performance. quand on n'a pas le cœur à faire les choses, il ne faut pas du tout les faire. Parce que pour les faire bien, eh bien, il faut les faire de tout son cœur.
On n'a souvent pas le cœur à faire les choses.
Ah, mais moi, si je n'ai pas le cœur à faire les choses, je ne les fais pas du tout. Ça, c'est le côté sale gosse en moi. Par contre, si je dis oui à quelque chose, c'est oui de tout mon être. Par exemple, venir ici, alors que je ne sais même pas ce qui m'attend dans votre émission là.
Que des
bonnes
choses.
C'est oui de tout mon cœur.
Que des bonnes choses.
Et je viens et je me dis, on va s'amuser puis on va rigoler un bon coup.
Ça, c'est vrai. Mais Fatou Diom, dans votre dernier roman, Les Veilleurs de Saint-Gomard, il est beaucoup question de mélancolie.
Oui.
Puisque c'est une héroïne qui a perdu son mari, qui ne se remet pas du deuil qu'elle est en train de faire. Et pour avoir accès, elle passe par l'imagination, la rêverie. Et chaque nuit, elle se rend compte que l'écriture convoque les morts.
Oui, et alors c'est Kumba qui écrit la nuit pour convoquer son mari, son cher Bouba, son adorable prince charmant. Et ni Kumba ni moi n'avons rien inventé d'ailleurs, je n'ai rien inventé. C'est Nietzsche qui dit nous avons l'art afin de ne pas mourir de la réalité. Donc Kumba applique ce précepte-là, elle essaye malgré tout de tenir debout, et la nuit, quand tout le monde dort, quand elle ne sait pas à qui se confier, elle prend son carnet, elle écrit à la fois, elle consigne ses souvenirs heureux, mais aussi ses révoltes quotidiennes, et il n'en manque pas du tout dans la vie de cette jeune veuve.
Non, d'ailleurs elle transcende sa condition ainsi, et elle est comme vous Fatou Diom, cette héroïne, puisqu'elle n'obéit pas à ce que les autres projettent sur elle, elle est libre.
Oui, mais en même temps, elle ne lutte pas contre, elle lutte pour. C'est toujours ce que je dis, c'est que quand moi j'étais jeune, on me dit « Ah, mais tu es féministe parce que tu as lutté contre un tel ou tel oncle, contre celui-ci. » Moi, je n'ai lutté contre personne. J'ai lutté uniquement pour ma liberté de femme. Donc, il se trouve que certaines personnes pouvaient être devant moi comme des troncs d'arbres, des obstacles, quoi. Mais il faut franchir l'obstacle. Donc, ça demande un affrontement que je n'ai hélas pas choisi. Mais si on me l'impose, j'assume.
Guerrière, Fatou Diom, vous m'avez appris un mot dans Les Veilleurs de Saint-Gomard. Vous parlez des baïnes de la mélancolie. Baïnes,
oui.
C'est la dépression creusée par la mer dans le sable des plages. On va essayer de remplir cette dépression avec tout ce que vous allez convoquer, Fatou Diom, dans cette émission. Des loups, de la danse, des poissons, le saloum, votre grand-père, Stieg Dagerman, Marc Aurèle, Linda Lemay, Laurent Soulal et le peintre Eugène Delacroix, juste après le titre « Si tu veux » de Stéphane Echer dans la playlist France Inter.
Elle belle compagnie.
Si tu veux que je chante, ne sois pas infidèle. Ne me crois pas si fort, ne me crois pas si faible, que je puisse accepter la brûlure et le froid, sans perdre le sourire, sans perdre la voix. Si tu veux que j'entende, sois désormais plus clair, ne me roule plus dans rien, ne brouille plus mes repères, sous peine de relancer les comment, les pourquoi, qui font perdre patience, qui font perdre la foi. Inutile de m'attendre, une impatiente oreille, le goût de toi me manque, mais rien ne se réveille. Les paroles ne viennent plus, la musique n'est plus là. Va comme sec est mon cœur, va comme sec sont mes bras. Les paroles ne viennent plus, la musique n'est plus là. Va comme sec est mon cœur, va comme sec sont mes bras.
Remède à la mélancolie sur France Inter en compagnie de Fatou Diom.
Oh, why are you, Wana?
I had never been married before. I don't know if all grooms have the same experience. But as Kicking Bird began to speak about what was expected of a Sioux husband, my mind began to swim in a way that shut out everything but her. The tiny details of her costume, the contours of her shape, the light in her eyes, the smallness of her feet. I knew that the love between us would be served.
Yes.
Stay alone. Oh, Tima Aglayo. Wana Elusa Yelo.
1990, Danse avec les loups, réalisé par et avec Kevin Costner. C'est l'adaptation du roman homonyme écrit par Michael Blake en 1988. Et dedans, Costner fait le lieutenant John Dunbar, un soldat nordiste envoyé dans les plaines du Dakota pendant la guerre de sécession. Il rencontre le peuple Sioux, il est intégré à la tribu et surnommé Danse avec les loups. Avant que vous nous expliquiez cette scène qu'on vient d'entendre, j'aimerais savoir pourquoi vous avez choisi ce film qui est certes magnifique, mais j'ai pleuré à peu près 14 fois.
Comme moi aussi. Ah. Mais à part le fait que, oui, Kevin Costner, c'était quand même le fantasme de pas mal de jeunes femmes à l'époque. Je ne faisais pas exception. Et aussi, ce film m'a beaucoup fait pleurer, mais aussi réfléchir. Et c'était pas des larmes de tristesse, mais de joie et de découverte aussi. C'est la rencontre de deux peuples, de deux cultures, et l'amour arrive à transcender tout cela. Ils vont dépasser la barrière de la langue, la barrière culturelle et même géographique, parce qu'il y a une histoire d'amour qui va naître entre ces deux êtres-là. Et Oiseau Bondissant, qui est le sage de la tribu, le patriarche, il va accorder la main de sa fille adoptive à cet illustre inconnu, mais qui a su se montrer méritant. Il a sauvé un des Indiens, il a sauvé aussi cette femme qui voulait se suicider. Et donc, il est devenu le prince charmant de cette jeune femme. Et grâce à cette histoire d'amour, eh bien, il va devenir tout simplement un être humain parmi les siens.
Justement, Fatou Diom, vous dites, l'être humain n'a pas besoin de se définir au-delà de son humanité. Une des choses les plus émouvantes dans ce film, c'est quand il découvre, John Dunbar, que les Indiens n'ont rien à voir avec les clichés véhiculés par les Blancs. Et finalement, dans ce film, la folie des hommes, elle est représentée par les Blancs qui mènent une guerre et qui sont tous fous. Il y a deux suicides dès le début du film, un raté, puisque c'est John Dunbar, et un réussi, qui est un major qui l'envoie en poste dans les plaines.
Oui, et qui fait qu'il aura du secours tardif puisque on l'oublie en quelque sorte. Oui, mais cette séparation des peuples, ça vient d'où? C'est ce besoin de dominer. Donc oui, c'est après la guerre de sécession, tout ça. On a besoin de déshumaniser la personne qu'on a envie de dominer. Parce que si on le regarde comme nous-mêmes, on ne peut plus agir mal. On ne peut plus se regarder dans une glace, avoir la conscience parfaitement claire, nette et lucide de se dire que celui-là est comme moi et je le maltraite quand même. Donc on est obligé de le réduire presque au statut d'animal pour pouvoir exercer cette domination injuste. Et lui, quand il se rend compte de ça, donc il n'est jamais trop tard. Lui, il vient bien du peuple dominant. Mais il a son humanisme, il y a cette découverte de l'autre qui va révéler le bon côté de l'être humain qu'il est. Et je trouve que ça donne beaucoup d'espoir.
Justement, l'humanisme, Fatou Diom, c'est quelque chose qui traverse toute votre œuvre et tous vos propos quand vous êtes dans des émissions ou interviewés. Je crois que vous faites une thèse de lettres modernes sur le réalisateur et écrivain sénégalais Sam Ben Ousmane. Et l'intitulé, c'est justement « Le voyage, les échanges et la formation ».
Oui, surtout formation. Elle est finie d'ailleurs. C'est formation au sens initiatique. Je ne sais pas qui je suis tant que je n'ai pas rencontré l'altérité qui va juste me permettre de relativiser exactement qui je suis. Donc, pour se poser des points d'interrogation, il faut voir quelque chose de différent. On apprend à redécouvrir sa propre culture, d'ailleurs, en découvrant celle des autres. Je pense que je n'ai jamais été aussi proche de la culture sérère que depuis que je vis justement en Europe. Parce qu'en vivant en Europe, je découvre une autre manière de vivre, d'autres traditions, d'autres manières d'exprimer les émotions, la sensibilité, tout ça. Et ça me renvoie à mon peuple d'origine, les Serer Nyominka du Sine Saloum.
Une ethnie, c'est ça?
Une ethnie, dans le sud-ouest du Sénégal. Comment on vit là-bas? Comment on vit le mariage? Comment on vit l'amour? Comment on vit le deuil? Toutes ces choses-là, je vois aussi l'autre côté en Europe, la version européenne, la version africaine. Et je suis au milieu des deux. Donc ça me permet de puiser dans les deux cultures, ce qui me permet de créer un vrai trait d'union entre mes sœurs blondes et mes sœurs d'ébène.
Mais on y reviendra, parce qu'il y a plusieurs de vos remèdes qui touchent à ce sujet, Fatou Diome. Alors, je me retiens de faire un mauvais jeu de mots pour passer de danse avec les loups à vos activités anti-spin. Il y en a plusieurs, notamment la danse.
Exactement.
Qui est liée chez vous à votre panacée, l'écriture. J'ai lu que vous écriviez de 23h à 6h du matin en marchant et en récitant à voix haute, et que si vous aviez envie de faire une pause, la nuit, vous dansiez dans votre couloir.
Oui, parce que la nuit... Vous savez, quand on reste assise pendant 5h, 6h ou 10h à écrire, mais le corps, il s'endort. Donc, vous faites un petit café, vous mettez une bonne musique bien endiablée, et puis je danse un bon coup jusqu'à être totalement en sueur. Et là, on se prend une petite douche, et on remet sa musique, et on se réinstalle. Et l'esprit est réveillé, le corps est réveillé. Et en plus, il y a un avantage non négligeable, c'est qu'après, eh bien, votre jean vous remercie, parce que c'est quand même du sport.
Alors le djinn, c'est les esprits. On en trouve beaucoup dans les Mille et Une Nuits et dans les Veilleurs de Sangomar. D'ailleurs, roman dans lequel vous dites, Fatou Diome, quand la mélancolie est privée de mots, elle pêche des algues rouges au fond des yeux. Mais vous dites aussi un peu plus tard, l'écriture n'allège aucun tourment, mais elle aide à traîner son fardeau.
Oui, sans avoir à le déposer sur le dos d'autrui. Oui, parce que les pages vous acceptent tel que vous êtes et ne vous jugent pas impudique ou excessif ou dépressif d'ailleurs, parce que les gens maintenant, on a très vite fait de mettre des mots. Le problème, c'est qu'il y a des mots qui dégradent, il y a des mots qui vous dévalorisent, il y a des mots qui vous humilient en fait. Et alors que les pages ne vous les sortiront jamais. Par contre, vous pouvez les sortir. Vous pouvez écrire, aujourd'hui je suis au 36e sous-sol. Il n'y a que vous qui le savez. Donc vous êtes libre de garder cette phrase dans le texte plus tard ou pas. Et donc cette liberté que l'écriture donne, c'est une manière de prendre la distance avec soi-même, de même se caricaturer parfois et d'en rigoler, ce qui allège, on ne prend plus les choses au premier degré. Parce que pour en faire une création artistique, ben on est obligé de les sublimer. Et cette sublimation fait qu'il y a une transformation du tourment initial, ça devient autre chose.
C'est presque un processus alchimique.
Et mais oui, c'est une métamorphose, et surtout en ce qui me concerne, c'est une métamorphose nocturne. Donc je dis, l'écriture est ma marmite de sorcière, la nuit je mijote des rêves trop durs à cuire. Au moins le matin, je me réveille avec une matinée à peu près consommable.
Vous vous réveillez à quelle heure, Fatou Diome, si vous écrivez toute la nuit?
Si je me couche à 6h ou 7h, en général, je me réveille à midi. Donc le petit déjeuner, c'est entre midi et 13h.
Une choucroute?
Une choucroute, s'il y en a, parce que, mais oui, mais je ne la réussis pas aussi bien qu'au resto. Mais alors, un bon petit brunch pour me réveiller. Et comme ça, je ne déjeune pas en général. Et puis, mon vrai repas chaud de la journée, c'est le dîner. Et comme ça, j'ai la forme pour écrire toute la nuit. Et le téléphone, il est coupé toute la matinée jusqu'à 13h. Il n'y a personne qui décrochera. Parce que je dors. Et après, l'écriture reprend sa place le soir.
Pour rebondir sur ce que vous venez de dire juste avant, c'est vrai qu'on a tendance à catégoriser les gens. Et je pense que Baudelaire, aujourd'hui, on dirait qu'il est maniaco-dépressif. Mais si on lui avait donné un traitement pour sa dépression, il n'aurait jamais écrit tous ses poèmes.
Mais en fait, il écrit avec son tourment. Mais je pense aussi qu'il n'a peut-être... Alors là, je vais oser un scandale. Je vais oser critiquer Baudelaire.
Oh,
je
pense sacrilège.
Donc un crime de lèse-majesté.
Ah oui, vraiment.
Mais oui, c'est le premier cadeau que j'ai reçu comme prix littéraire. C'était quand même les fleurs du mal. Donc c'est un de mes papis Baudelaire. Alors je taquine. Je pense qu'il a fait un mauvais usage de sa plume. Parce que l'écriture permet quand même d'atteindre des moments d'extase, une joie folle. Donc les gens qui se droguent, moi je leur donne un conseil formidable, écrivez. En tout cas, ça vous met tellement en joie que vous n'avez plus besoin d'aucune autre substance. Alors peut-être que Baudelaire n'a pas compris la dimension magique de son talent. Peut-être qu'il ne s'est pas laissé emporter comme ça dans la bulle de l'écriture pour décoller dans sa tête.
Mais il a fait quelques trucs pas mal malgré tout.
Ah mais oui, il nous a fait des réflexions formidables, mais moi je refuse d'être aussi déprimée que lui.
Oh, mais vous avez raison, Fatou Diome. On n'est pas obligé d'être un artiste maudit qui se roule par terre dans la dépression.
Mais justement, quand on est un artiste maudit, il faut prouver le contraire. Il faut faire tout ce qu'il faut pour ne pas se maudire soi-même.
C'est le plus dur.
C'est plus dur. Et c'est comme quand on dit les enfants rejetés. Moi, je ne suis pas une enfant rejetée, je suis une enfant adoptée partout. Et c'est comme le couple que vous avez présenté au début. Ce n'est pas un couple illégitime, puisqu'ils ne trahissent personne. Ce sont juste des ados absolument inconscients qui sont jeunes et dynamiques et bourrés d'énergie. Donc, ils n'ont pas attendu les salamalek des faux dévots. Donc, ils ont fait une fille née parfaitement libre.
Alors j'ai utilisé des articles de journaux, peut-être de Jean Droguet qui avait écrit comme Baudelaire, et donc j'ai repris des mauvaises informations, en fait, ou bien veuillez m'excuser.
Mais non, ce sont de vraies informations sociologiquement.
Oui.
Et là, je vous donne la version que j'en ai moi en tant qu'auteur. Je vois deux ados qui n'étaient mariés à personne et qui ont fait un bébé. Je dis chapeau les libres amoureux.
C'est vrai, par-delà le bien et le mal, Nietzsche est toujours là en studio.
Exact.
Et donc, je continue avec vos activités consolatoires. Il y a aussi marcher au bord de la mer et mieux prendre la pirogue avec mes frères et sillonner les bras de mer du Saloum, le fleuve sénégalais qui compte environ 2000 bras.
Oui, ou alors aller pique-niquer sur l'île de Sangomar et puis on pêche nos grillades, on passe la journée à se baigner, à manger du poisson, à regarder le ciel bleu et surtout à se souvenir que ben, sur cette île de Sangomar, il y avait un campement de pêche de mon grand-père. Donc du coup, aller là-bas, ça me rattache à mes souvenirs d'enfance. Il y a une douceur à être là-bas.
Vous dites dans Les Veilleurs de Sangomar, Fatou Diom, au Saloum, les paysages rendent les malheurs indécents.
Oui, parce que c'est tellement beau, mais c'est tellement beau que même le diable, il a la larme à l'œil quand il voit une amoureuse pleurer dans ce décor-là. Et c'est vraiment, Kumba est là-bas, mais elle ne reconnaît plus ce magnifique paysage, devient un paysage de désolation quand elle a perdu son amoureux.
Honneur à votre grand-père, encore, Fatou Diom, avec votre idée anti-spleen. Il s'agit de l'un de ses conseils.
Oui.
Va au bout de toi-même avant de demander de l'aide. Ta détermination est le plus fiable des secours.
Oui.
C'est vrai qu'on a toujours besoin d'être guidé, approuvé, alors que tout le monde est aussi perdu que nous et que la seule approbation ou autorité valable réside en soi.
Et oui, mais vous savez, cette citation, par exemple, c'était quelque chose de tellement prosaïque et simple. C'est en grandissant que je l'ai adapté à d'autres choses, d'autres situations de ma vie. Cette citation, il me la faisait quand je demandais tout simplement qu'on m'attrape quelque chose sur l'étagère de ma grand-mère. Parce qu'on met les calebasses de couscous ou les paniers de gâteaux, tout ça, en hauteur. Comme c'est une île, il y a du sable partout. Donc, il y a des étagères pour comme garde-manger. Et chaque fois que je voulais attraper quelque chose, je courais appeler ma grand-mère. Viens, attrape-moi ça, attrape-moi ci. Ah, grand-père, attrape-moi ci. Et mon grand-père, il m'a dit, mais prends la chaise, monte sur la chaise. Donc, va au bout de toi-même, essaye quelque chose avant de demander de l'aide. Parce que ta détermination, c'est quand même le plus fiable des secours. Oui, les autres peuvent promettre et ne pas tenir parole. On peut appeler quelqu'un au secours, la personne ne vient pas, ou pas en heure, pas en temps voulu. Par contre, si on essaye modestement d'utiliser ses propres ressources, peut-être qu'on ne va pas réussir tout, mais on aura remédié à une partie du problème.
Est-ce que ça vous arrive de demander de l'aide malgré tout, Fatou Diom?
Quand c'est vraiment nécessaire. Mais il faut vraiment que ce soit très, 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 très nécessaire. Parce que souvent, j'ai un peu honte pour dire, je dois avouer ça aussi, ce qui n'est pas très gentil pour mes amis, mais il faut vraiment que je sois le nez dans l'eau pour enfin accepter d'appeler au secours. Voilà, là, c'est l'éducation du marin. C'est mon grand-père qui m'a un peu forgé de cette façon. J'appelle au secours quand je n'ai vraiment plus le choix. Et je préfère parfois d'ailleurs me priver plutôt que de demander de l'aide.
Ça peut se travailler, je suis sûre.
Ça peut se travailler, mais ça vient d'une timidité maladive aussi.
Ah oui?
Oui.
Insoupçonnable.
Ah oui, c'est ce que les gens pensent, mais vous savez, les clowns sont souvent...
Oui. L'ambivalence est partout.
Oui.
Dans un instant, on parlera justement d'ambivalence, puisqu'on parlera d'un auteur suédois avalé par son désespoir, qui était aussi constellé de beaucoup de lumière, juste après un titre de la playlist Inter, Fire de Black Pumas.
Love. help me understand. Oh,
à la mélancolie sur France Inter, toujours avec la reine de la répartie, Fatou Diom. Motet de souffrance et de consolation du compositeur Nicolas Bacri, interprété par le chœur Microcosmos, pour introduire votre baume littéraire, Fatou Diom. Notre besoin de consolation est impossible à rassasier, du suédois Stig Dagerman, publié en 52 dans une revue, puis comme ouvrage en 55, l'année suivant le suicide de l'auteur à l'âge de 31 ans. Vous y faites référence d'ailleurs dans Les Veilleurs de Saint-Gomard. C'est l'un de ses derniers textes qui est vu aujourd'hui comme une forme de testament. Et je ne peux m'empêcher de faire un parallèle, puisque Stig Dagerman a été abandonné très jeune par sa mère et élevé par ses grands-parents.
Et moi, je refuse de vous dire pourquoi je l'adore. Je vous dis tout simplement, c'est mon amoureux suédois qui n'a même pas le loisir de refuser ou d'accepter. Donc, à vie, je l'aime, je le garde.
J'espère que vous ne terminerez pas comme lui, Fatou Diom.
Non, parce qu'il ne dansait peut-être pas et moi je danse.
C'est vrai qu'il ne dansait pas dans ses couloirs et il ne mangeait pas de choucroute.
Oui, et je ne sais pas s'il récitait quand il écrivait, donc moi je récite jusqu'à me mettre en transe toute seule. Peut-être que tout ça m'éloignera de son geste fatal. Mais voilà, moi je ne retiens pas que son geste, je retiens toute la beauté de ses textes, toute sa poésie, son regard qui est tellement lucide, on a l'impression qu'il se brûle la rétine à force de scruter la réalité. Et donc je retiens tout ça et c'est quelqu'un qui me bouleverse et je me réfère souvent à lui, oui.
Tout à l'heure on parlait d'ambivalence, puisque... Je pense qu'en fait, l'absolu, d'un côté ou de l'autre, pour moi, n'existe pas. Je pense que tous les êtres sont complexes. On a tendance à opposer les choses. Mmh. Mais en fait, Stig Dagerman est aussi idéaliste que lucide et poète. Et il oscille sans cesse entre la grâce absolue et la dépression.
Et tous ces textes l'expriment. Mais je pense que c'est cet excès de sensibilité qui s'est aussi retourné contre lui. Il a écrit avec sa sensibilité. Il a souffert de cette sensibilité. Et ça l'a emporté. Mais il nous a laissé quelque chose qui le rend immortel. Pour moi, Stig Dagerman, c'est quelqu'un qui est toujours en vie avec moi.
Il commence son texte en disant qu'il n'a pas de consolation puisqu'il n'a foi en rien.
En rien, oui. Donc il n'a pas la sérénité des athées, puis il n'a pas le côté rassurant que les croyants peuvent trouver en Dieu. Il a la philosophie et la réflexion. Peut-être c'est plus terrifiant, il est face à sa liberté.
Justement, la seule consolation possible, c'est la liberté. Mais la liberté, c'est quelque chose d'absolument terrifiant aussi, Fatou Diom.
Il faut l'assumer, c'est un vertige. Donc, vous savez, encore Nietzsche, hein, il dit quand on regarde dans les abîmes regardent en nous. Donc, quand on regarde la liberté en face, elle nous renvoie aussi à nous-mêmes.
C'est vrai que même quand on ne regarde pas dans les abîmes regardent en nous.
Les abîmes ne nous auront jamais.
Non, j'espère.
Oui, parce que nous gardons le sourire et c'est lumineux.
Stig Dagerman avait peur de ne plus être à la hauteur de ce qu'il avait déjà écrit. Ça vous est déjà arrivé de penser comme ça, Fatou Diom ?
Non, alors c'est par exemple... Ah oui, là c'est un point où je ne vais pas le rejoindre par exemple. Il a peur de ne pas être à la hauteur de ce qu'il avait écrit. Donc ça veut dire qu'il trouvait cela parfait. Donc moi je ne me vois pas comme ça, je ne me reconnais pas son talent à lui. Et je ne me reconnais pas non plus aucune obligation de preuve. je fais ce que je peux, modestement, avec ce que j'ai. Et donc, ben, les livres, ben, il y a des gens qui peuvent choisir d'aimer celui-là ou pas du tout. Mais la nécessité qui me pousse à me lever la nuit, quand les êtres normalement constitués sont en train de dormir, cette violente nécessité qui me garde debout la nuit et qui me fait écrire, eh ben, je la respecte. Ça. Alors, elle va s'accommoder de ce que je lui offre la nuit. Et c'est pour ça que Kumba, dans mon dernier livre, Kumba dit,
l'héroïne.
Écrire, oui, c'est se présenter à Dieu tel qu'il vous a fait. Donc, à lui d'assumer sa pauvre créature. Donc, moi, je produis mes textes à la limite de mes pauvres compétences.
Et bien, justement, ça, on va y revenir avec votre citation, Becky Fatou Diome, dans un instant, puisqu'il s'agit de Marc Aurèle, et il dit un peu ça en substance. Mm-hmm. Mais avant, j'aimerais bien vous écouter nous lire un petit extrait de Stieg Dagerman.
Et vous allez voir comme il est formidable, mon amoureux suédois. Il dit ceci. Je peux reconnaître que la mer et le vent ne manqueront pas de me survivre et que l'éternité se soucie peu de moi. Mais qui me demande de me soucier de l'éternité? Ma vie n'est courte que si je la place sur le bio du temps. Les possibilités de ma vie ne sont limitées que si je compte le nombre de mots ou le nombre de livres auxquels j'aurai le temps de donner le jour avant de mourir. Mais qui me demande de compter? Le temps n'est pas l'étalon qui convient à la vie. Au fond, le temps est un instrument de mesure sans valeur, car il n'atteint que les ouvrages avancés de ma vie. Mais tout ce qui m'arrive d'important et tout ce qui donne à ma vie son merveilleux contenu, la rencontre avec un être aimé, une caresse sur la peau, une aide au moment critique, le spectacle du clair de lune, une promenade, un bord de mer à la voile, la joie que l'on donne à un enfant, le frisson devant la beauté, tout cela se déroule totalement en dehors du temps. Car peu importe que je rencontre la beauté l'espace d'une seconde ou l'espace de 100 ans, non seulement la félicité se situe en marge du temps, mais elle nie toute relation entre celui-ci et la vie. Je soulève donc de mes épaules le fardeau du temps et par la même occasion celui des performances que l'on exige de moi. Ma vie n'est pas quelque chose que l'on doive mesurer. Ni le saut du cabri, ni le lever du soleil ne sont des performances. Une vie humaine n'est pas non plus une performance, mais quelque chose qui grandit et cherche à atteindre la perfection.
Notre besoin de consolation est impossible à rassasier, de Stieg Dagerman, lu par vous, Fatou Diome. On retrouve cette idée d'humilité, de l'artisan dans votre citation, Becky, qui est d'un autre grand mélancolique, l'empereur romain Marc Aurèle. N'espère pas réaliser la République de Platon, mais tiens-toi pour satisfait si tu progresses un tant soit peu. Et ce petit résultat considère que ce n'est pas peu de choses. C'est une citation extraite de Pensée pour moi-même qu'il rédige entre 170 et 180 après Jésus-Christ. Souvent pendant ses campagnes militaires et des réflexions qui auraient dû être détruites à sa mort. Dans l'écriture, j'ai l'impression qu'il faut l'humilité de n'être que ça. J'ai une métaphore à vous proposer, Fatou Diome, pour l'écriture. Elle est un peu cavalière. Quand on a le texte en soi, dans sa tête, c'est du Chateaubriand. Et quand on le met sur le papier, ça fait le bruit d'un coussin péteur.
C'est très beau. Alors oui, et en plus j'aime beaucoup Chateaubriand parce que...
Mais
oui,
moi,
alors lui, il aime les ornements dans l'écriture. Chaque ornement dans le texte, c'est une prouesse du langage, mais aussi de la réflexion, et c'est une acceptation de la sensibilité. Moi, c'est tout ce que je cherche dans l'écriture. Je ne lui demande pas grand-chose. Je lui demande juste de m'aider à accepter les jours, l'un après l'autre. Donc, les nuits, d'ailleurs, Stieg Dagerman le dit, la vie, ce n'est pas simplement savoir que ben, chaque jour ne fait que s'interposer entre deux nuits et chaque nuit ne fait que séparer deux journées. Non, c'est un enchaînement de toutes petites choses qui nous touchent, qui nous émerveillent et il faut juste les saisir. Moi, quand j'écris, j'essaie juste de saisir des moments d'émotion. Peut-être que ce n'est pas grandiose, mais moi, c'est tout ce que je peux capter et donc je le fais.
Marc Aurèle, justement, dans cette recommandation, c'est une recommandation à l'humilité, mais pas à la honte. On ne doit pas avoir honte de ce qu'on crée.
Oui, on doit accepter qui l'on est avec ses modestes compétences. Par contre, en filigrane dans cette citation, et j'ai choisi pour ça aussi, en filigrane, il y a « ne reste pas les bras croisés ». Donc, il faut faire le peu de choses dont on se sent capable et considérer que le résultat de ce modeste effort, c'est déjà ça de gagner. Et alors, même avant d'avoir lu ce texte, je me souviens à Impossible de grandir, je disais, jeter des poignées de sable dans le Grand Canyon, c'est toujours plus rassurant que l'observation passive du gouffre. Donc, chaque fois qu'on met sa petite poignée de sable, c'est autant d'espace gagné sur le néant. Et donc, je ne veux pas regarder le néant. Je veux essayer de combler les petits trous de ma vie petit à petit.
Voilà. Et le progrès ne vient de toute façon qu'en faisant.
Oui, en agissant. Et c'est ça qui donne peut-être un certain goût, une certaine saveur aux journées.
Fatou Diom, on va découvrir vos antidotes musicaux. Mais avant, pour vous faire plaisir, on a choisi de diffuser un titre de la Sud-Africaine Myriam Makeba dans l'émission parce que je sais qu'elle fait partie des artistes que vous écoutez
tout
en écrivant.
Oui.
Alors on écoute Intoyam.
Intoyam, yaitanda no misi ningrina, inganywa yi andisebenze. Intoyam, yami no misi ningrina, inganywa yi andisebenze. Yesu geko lindi ige simila, ya pike kapa, ya moshakari. Intoyam, yaitanda no misi ningrina, inganywa yi andisebenze. Intoyam, yaitanda no misi ningrina,
Remède à la mélancolie sur France Inter avec Fatou Diom.
Ils parlent avec des mots précis, puis ils prononcent toutes leurs syllabes. À tout bout de champ, ils se donnent des billes, ils passent leur grande journée à table. Ils ont des menus qu'on comprend pas, ils boivent du vin comme si c'était de l'eau. Ils mangent du pain puis du foie gras en trouvant le moyen de pas être gros. Ils font des manifs au quart d'heure, à tous les mots t'as dit coin de rue. Tous les taxis ont des chauffeurs qui roulent en fou, qui collent au cul. Et quand ils parlent de venir chez nous, c'est pour l'hiver ou les Indiens. Les longues promenades en skidou ou encore en traîneau à chien.
Fatou Diom, vous avez obtenu la nationalité française en 2002 après 8 ans passés ici. Oui. Vous êtes française par choix, par amour et par résistance, dites-vous. Et là, vous avez choisi de nous faire entendre une chanson de 2000, Les maudits français de la québécoise Linda Lemay. Mmh. C'est sur les stéréotypes culturels. Est-ce que vous êtes d'accord avec certains d'entre eux?
Alors, moi, elle m'a fait sourire. Et puis déjà, bonjour à la francophonie parce que Linda Lemay est québécoise. J'aime son regard décalé et c'est aussi l'humour qui est une preuve de tendresse. C'est-à-dire quand on regarde un peuple et puis qu'on a la possibilité de lui trouver des petits défauts qu'on critique de cette manière avec tendresse, Je dis, c'est comme regarder le visage de l'amour de tout près, tout près, tout près, et puis on voit les petits grains de beauté. C'est ça. Donc, quand elle parle de la France, ben, elle vous parle du foie gras, ben, moi, j'adore. Donc, mais elle vous dit qu'il mange le fromage, le foie gras, il trouve le moyen de pas être gros, c'est quand même un mystère des Français.
Mais c'est faux.
Mais, donc, ils font des régimes. Mais moi, quand je suis venue du Sénégal, il y a aussi des choses que j'ai découvertes et qui m'étonnaient. Donc, par exemple, les champignons. Alors, c'est étrange, hein, ici, c'est juste un végétal exquis, qu'on trouve dans les bouchers à la reine, c'est fantastique, n'est-ce pas, quand on connaît. Mais moi, quand je venais d'arriver, je n'osais pas manger parce que chez moi, dans ma culture, on les appelle les chapeaux de mort. Donc, je n'allais quand même pas manger la casquette des morts.
Non, ce n'est pas très poli.
Donc, j'en avais peur et je pensais qu'il y avait du poison. Et puis, d'ailleurs, c'est pas loin de la vérité. Il y a quand même certains champignons qui vaut mieux ne pas manger. Mais chez nous, comme c'est le Sahel et c'est pas très humide, eh bien, les champignons poussent souvent sous les grands arbres, eh bien, dans les cimetières. Du coup, on les appelle les chapeaux de mort parce que les serrères ont un langage très visuel comme ça. Et quand j'écoute Linda, je me dis, elle a rencontré la France, elle a pu l'aimer, elle a dépassé ses étonnements et c'était exactement mon cas quand je suis arrivée.
Et d'ailleurs, à la fin de la chanson, elle réalise qu'elle ressemble aux Français.
Oui, et d'ailleurs, elle dit quand les Français quittent le Québec, quand, après les vacances, il y a comme un trou dans le Québec quand les Français s'en vont. Donc voilà, il y a une fraternité qu'elle revendique.
Anangam Betia Diala de Laurent Soulal du groupe Étoile de Sangomar. Vous nous l'avez fait découvrir, Fatou Diom. Laurent Soulal, c'est un artiste de l'ethnie sérère aussi. Qu'est-ce que ça vous évoque, ce morceau? Vous m'avez dit hors antenne, je vais pleurer.
Eh oui, je vais tout pleurer, en j'ai envie de danser, j'ai envie de pleurer, parce que ça, c'est toute mon enfance. Donc voilà, la cour de récréation, on danse entre les camarades de classe et on chante Laurent Soulal. Et c'est le serrère des îles, c'est du serrère Nyominka, donc les serrères de l'eau. Et ça, c'est un chant de lutte. Traditionnelle, la lutte traditionnelle serrère, c'est un peu comme le judo. Et il faut savoir que dans les années 60, par exemple, les lutteurs chez nous, c'était comme les rockstars en Europe. Eh bien, il se trouve qu'il y a une fille de lutteur dans ce studio, et c'est moi. Et quand j'entends ça, il y a mon sang qui fait un tour, il y a quelque chose de très, viscéral à moi qui se réveille, c'est Nyodior, c'est les cocotiers, c'est la mer, c'est le parfum du couscous de ma grand-mère. Ce sont les chants de lutte. Eh bien, c'est Laurent Soulal. Pour des oreilles françaises, ça doit être très surprenant, mais je vous assure, à Strasbourg, sur les bords du Rhin, ça me fait danser tout le temps.
On prend les armes, Fatou Diom. Freedom de Jimi Hendrix. Pour illustrer le dernier remède choisi par vous, Fatou Diom, c'est le tableau peint par Eugène Delacroix en 1830, La liberté guidant le peuple, d'abord intitulé 28 juillet puisqu'il est inspiré de la révolution des Trois Glorieuses, qui eut lieu le 27, 28 et 29 juillet. Puisque Charles X, à l'époque, le 25 juillet, publie 4 ordonnances dans le but d'écraser l'opposition libérale. Et l'une d'elles est la suspension de la liberté de la presse. L'opposition appelle à la désobéissance. Les classes moyennes et le peuple de Paris se révoltent. Il y a 3 jours d'émeute. Charles X abdique. Louis-Philippe inaugure la monarchie de juillet. Et ce tableau, c'est devenu le symbole de la République française ou de la démocratie.
Oui, et pour moi, c'est aussi un symbole de la liberté d'expression. Parce que vous parlez justement de ces ordonnances qui suspendaient en quelque sorte la presse. Et je n'ai pas choisi ce tableau uniquement pour sa célébrité. Je l'ai choisi parce que je pense qu'il est toujours d'actualité et qu'il restera toujours d'actualité. Parce que tout ce que nous pouvons imaginer ou espérer dans notre vie, quelle que soit l'utopie que nous caressons, ça passera par la liberté. Et donc, notre époque est menaçante pour différentes raisons et je voudrais tout simplement rappeler aux citoyens la nécessité de sauvegarder la liberté et la liberté, ça passe toujours par la justice. Et les deux, pour moi, vont de pair. Et donc, souvenez-vous de Delacroix qui a rêvé la liberté pour nous. Et puis, souvenez-vous que Charles X, il a abdiqué. Et que c'est lui qui a abdiqué, pas la liberté d'expression.
Fatou Diome, on va s'arrêter là. Mais juste, je sais aussi que l'un de vos mots préférés, c'est fraternité.
Fraternité. Et donc, comme diraient les Québécois, de gros becs à la France entière. De gros bisous.
Ils sont bien réceptionnés. Merci beaucoup, Fatou Diome, d'être venu.
Merci, Eva. Merci.
Je rappelle le titre de votre dernier roman, Les Veilleurs de Sangomar, paru en août dernier chez Albin Michel. Chers auditeurs, la programmation musicale et les remèdes sont sur le site de l'émission. Comme toujours, vous nous écrivez beaucoup pour nous demander les titres qu'on passe dans l'émission, mais ils sont toujours évidemment en ligne. J'espère que votre âme a la jovialité d'un albatros à vapeur. Je vous retrouve dimanche prochain à 10h.